Bonjour, bienvenue dans cette seconde partie de cette leçon en trois parties sur l'utilisation de scénarios dans un contexte d'adaptation en milieu côtier. Alors dans cette seconde partie, je présente une étude de cas que j'ai simplifiée, qui est celle d'une ville italienne de la mer sur la côte adriatique, la ville de Cesanatico. Et il n'est pas tellement important de se souvenir des détails particuliers ou de discuter de ces détails particuliers, mais plutôt de se souvenir de la méthode, de l'approche, du sentier critique qui est suivi pour établir un scénario déductif, ce qui est l'objet de cette présentation. Alors, j'aimerais souligner ici qu'un scénario déductif, c'est le mode de scénarisation le plus habituel, mais pas nécessairement le plus pertinent. En fait, chaque mode de scénarisation dépendra de vos objectifs, et nous discuterons tout à la fin des présentations d'un choix ou de la façon de choisir différents scénarios. Merci et bonne vidéo. Comment établit-on un scénario? Comment construit-on un scénario? Avant l'exemple, je pense que c'est un peu, c'est en le faisant qu'on voit comment ça se fait, mais disons que c'est fondamentalement, c'est assez simple. Hein. On se dit, nous avons un problème de vision sur l'avenir, ou en tout cas on a un problème d'incertitude forte. Ce problème d'incertitude forte est lié à des questions concrètes, on se fixe des objectifs. On se dit, voilà, j'ai besoin d'explorer la réalité parce qu'il y a un problème d'évolution, je veux pouvoir choisir les meilleures décisions, imaginer visionnellement. Parce qu'il y a un problème d'ignorance, mais parce que je veux pouvoir essayer de trouver les éléments d'ignorance qui vont m'apprendre des choses sur l'avenir. Parce qu'il y a un problème de surprise, et bien parce que je veux pouvoir faire face aux surprises. La deuxième chose qu'on fait quand on doit établir un scénario, c'est se demander, mais qui va participer? Et là, c'est très intéressant parce que, en tout cas pour un cours comme ceci, parce que on se rend compte très vite que si on veut faire un scénario qui marche très bien, les gens qui doivent participer à sa rédaction, sa conception, sa création, indépendamment des scientifiques qui vont nous permettre de montrer qu'il est robuste, sont justement les gens dont les avenirs possibles vont voir leur valeur menacée. C'est justement les groupes d'acteurs pour qui l'évolution de l'avenir, les avenirs qu'on envisage dans ces scénarios-là spécifiques, eh bien pour qui il y aura un enjeu. Parce qu'en fait, pour faire face à l'avenir, on a besoin d'avoir plusieurs points de vue possibles, on a besoin de mobiliser le plus de valeurs possibles. Et donc, souvent, on va se fixer des objectifs et puis on va partir à la recherche d'une diversité d'acteurs pour participer. Ensuite, mais ça, je vous expliquerai plus en détail après, il faut choisir une méthode. Alors, j'en reparlerai, mais c'est assez facile conceptuellement. Pour élaborer un scénario, soit on peut déduire l'évolution du système en fonction de paramètres qu'on fait varier au début. Je vous montrerai un exemple pour la zone côtière. Enfin, on fait changer le climat et puis on regarde ce qui se passe. Ça, c'est une façon de faire. Donc, on déduit d'un changement tous les autres changements. Éventuellement, on pose des hypothèses qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis, il y a la façon de faire ça à l'envers. C'est pas tant de prendre un changement et voir comment il se déploie, mais de s'imaginer que quelque chose se passe. Et puis, pour arriver là, qu'est-ce qui nous a mené là? Donc, dans l'exemple que je vais vous montrer au tableau, ici, ce serait le niveau de la mer monte, il monte de combien pour inonder un pays, et puis qu'est-ce qui se passe quand il y a une inondation, combien ça coûte, etc. La méthode inductive, ce serait de dire, il y a une inondation qui coûte 100 millions d'euros, comment est-ce qu'on est arrivé ici? Et puis le scénario nous permet de retrouver d'où ce qui nous a amené là, et puis éventuellement de réfléchir à l'avenir. Et puis la méthode qu'on appelle incrémentale, c'est conceptuellement différent, c'est qu'on se représente un avenir désiré, pour dire on a envie que dans 20 ans nous soyons ici, je ne sais pas, moi, avec 50% de moins de gaz à effet de serre, et puis on définit le chemin qui nous mène là et on regarde toutes les bifurcations possibles qui pourraient nous mettre au mauvais endroit. Donc le premier, c'est qu'il y a un changement, on déduit l'évolution de l'avenir. La seconde façon, c'est de se dire l'avenir a changé, qu'est-ce qui nous a mené là? Et la troisième façon, incrémentale, c'est de dire, nous avons envie d'arriver ici, qu'est-ce qui pourrait se passer, qui pourrait nous mettre dans le mauvais chemin. Et puis on va analyser ce qui s'est passé dans le scénario, ça va dépendre de nos objectifs pour le numéro. Et puis souvent on va le communiquer, mais ça va dépendre des objectifs. Donc dans cette dernière partie de la leçon, je vais essayer de vous montrer comment on fait un scénario comme on en a fait un par rapport au changement climatique, l'inondation côtière, etc. En utilisant chacune des méthodes pour vous montrer un peu comment ce genre d'exploration peut être fait.
Et donc la première approche que je vais utiliser, c'est une approche éductive, c'est la plus logique. Hein, si on identifie quelque chose d'important, des enjeux clés, alors on va mobiliser les acteurs autour de nous pour voir quelles sont les forces motrices. On va essayer d'identifier les incertitudes profondes sur ces forces motrices. Et puis on va voir comment fonctionne le scénario et on va dessiner un scénario et on réfléchit à tout ça. Donc, l'exercice de scénarisation, qui va être un exercice de scénarisation résumé et simple que je vais faire avec vous, ça touche une ville italienne qui s'appelle Cesena. Alors, qu'est-ce que c'est Cesena? Il y a moyen d'en parler de mille façons différentes. Enfin, c'est un trait de côte de l'Adriatique, avec un canal, avec un bassin à la rivière, avec ici une plage, là un brise lame qu'on appelle Épi, ici une autre plage, ici c'est en pierre, hein. Là, c'est un canal, là, ça va là. Puis ici, ce sont des habitations, des rues, enfin, c'est une ville côtière, et n'importe quelle ville côtière. Et puis, c'est la même chose ici, en fait. Là, il y a une rue, on met devant l'eau, il y a un pont, et puis là, il y a une rue, une rue qui se promène devant l'eau, et là, il y a le trait des marées basses, et bon, il y a cette ville. Les carrières d'une croix, ça représente des lieux habités. Là. C'est ça. Donc ça, c'est la ville de Cesena Tico représentée symboliquement de façon très simple. Ici, il y a quelques brises-lames. Et là, c'est la mer Adriatique. Alors, avec le changement climatique, on s'attend à ce que trois choses se passent. Pour une ville comme Cesena Tico, comme toute autre ville, ce n'est pas vraiment important. Hein. Pour ceux qui ont accès à Google Earth, vous pouvez regarder si ça ressemble à ça, mais là, c'est approximatif, c'est un dessin très schématique. À quoi on peut s'attendre? Alors, on peut s'attendre à ce que le niveau de la mer monte. Deux, on peut s'attendre à ce que l'énergie des vagues augmente. Et trois, on peut s'attendre aussi à ce que l'intensité des tempêtes, surtout l'importance des creux dépressionnaires, augmente aussi. Il y a des choses qui sont plus ou moins données, comme plus ou moins considérées comme acquises. C'est encore une discussion, mais enfin, on a ces idées-là. Et donc, on a une ville, elle est sur la côte, ces plages sont des ressources touristiques, ce canal est un lieu de restaurant avec des ressources touristiques. Puis, il y a des vraies personnes qui habitent, qui travaillent, enfin, c'est une ville, quoi, au bord de la mer. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer à l'avenir dans une ville pareille? Comment elle va pouvoir évoluer? Comment on peut intervenir? Comment on peut faire pour qu'elle évolue? On se pose des questions et je vais prendre cette ville et appliquer une méthode de scénarisation déductive, comme celle que je vais vous présenter dans les diapositives, la première. Alors, ça veut dire quoi une méthode de scénarisation déductive? Eh bien, je vais d'abord identifier les enjeux centraux. Alors, puisqu'on est dans le cours, on peut avancer et raconter comment on fait une chose pareille. Eh bien, les enjeux centraux, vous vous souvenez que enjeu, valeur matérielle ou morale menacée, valeur acteur, et donc typiquement, si on veut identifier les enjeux centraux, eh bien il faut ces acteurs, il faut leur parler, et il faut arriver à mettre en place un processus où des acteurs nous disent, mais quels sont pour vous « les enjeux centraux de ce système décrit simplement, ville côtière, habitée, canal, brise-lame, enfin hippie, brise-lame, et changement climatique. Et évidemment, l'histoire est assez simple, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est pour ça que je l'ai choisi avec vous ici. L'enjeu central numéro 1, c'est l'inondation qui peut se passer comme ça. En fait, elle se passe déjà, même sans changement climatique. Régulièrement, on a de l'eau qui rentre par le canal, qui déborde et qui vient inonder des quartiers. Et l'enjeu central, c'est la perte liée aux inondations. Enjeu 1, c'est la perte 1, enjeu 1, perte liée aux inondations. Quand on leur parle encore un peu plus, l'enjeu 2, c'est l'érosion des plages. Puisque les plages font partie de l'attrait touristique, il faut que les gens puissent aller à la plage. Et bien, si le sable se fait emporter lors de tempêtes, et bien ils perdent leur plage. En fait, ils dépensent énormément d'argent à les redraguer du sable au large et le ramener. Ils font ce qu'on appelle le nourrice. Nourrissent les plages. Donc les pertes en euros liées aux inondations, les conséquences des inondations, l'enjeu 2, c'est l'érosion. Et en fait, l'érosion, c'est lié à des pertes en euros sur l'utilisation des plages, des pertes en euros liées au fait de ramener du sable sur la plage. Alors, c'est propre à ce système-là. Il y a des villes où l'enjeu clé serait les pertes de vie humaine, des endroits très sensibles aux inondations à gros problèmes. Bien, ce sont les gens qui meurent, mais à Chesenetico, les gens ne meurent pas d'inondations. Mais c'est plutôt des pertes économiques compliquées. Le bassin à la continue par là, important. Donc, les acteurs, ils identifient l'enjeu 1 et l'enjeu 2. Donc, on sait déjà que notre scénario, ici, dans ce mode déductif, eh bien, il va s'intéresser à l'avenir de cette ville en termes de ceci et de cela. Première. Ensuite, eh bien, on va essayer d'identifier les forces motrices qui déterminent ces choses-là. Alors, si je prends les forces motrices, comment est-ce que je vais faire ça dans un exercice de scénario? Là, ce que je vais faire, eh bien, c'est entamer un dialogue entre ces acteurs et les chercheurs pour essayer d'identifier les déterminants connus des pertes liées aux inondations. Et là-dedans, eh bien, il y a des choses qu'on connaît. Et par exemple, on a des fonctions qui vont exprimer la perte en euros en fonction de la hauteur d'eau d'inondation et de la durée d'inondation. Je vous connais assez bien. On est capable, en fait, de dire que pour une inondation de 1 mètre au-dessus du niveau moyen pendant 3 jours, on perdra tant de milliers d'euros. Qu'est-ce qu'on sait d'autre ? Là-dessus, on sait aussi que donc les pertes en euros, on a une fonction perte en euros, hauteur, etc. On sait aussi qu'on a une fonction où je vais appeler ça ce qui part ici, je vais appeler ça une masse M, hein, une masse de sable qui est emmenée par l'érosion. On sait aussi qu'on a une fonction avec la masse de sable en fonction de l'énergie des vagues. Des choses qu'on sait. En fait, on va perdre du sable en fonction de l'énergie des vagues et aussi d'une variable que je vais appeler quelque chose comme ça. C'est bête. Qui est liée aux aménagements en amont et en aval. Enfin, zigubri, c'est la variable zigubri.
pas très important.
Donc ça, je sais. Et donc, je sais que quelque part, ce qui va conduire ce système, les forces motrices liées à ces enjeux pour ce système, c'est la hauteur de potentiel, la durée des inondations, la quantité, la valeur des objets exposés à l'inondation, et je sais aussi que ma perte en sable elle va être fonction de la masse de sable qui part, dans son lien avec l'énergie des vagues et la variable J qui représente les aménagements des autres villes au-dessus et en dessous sur cette carte d'image. Okay. Donc j'ai des forces motrices identifiées. Et maintenant, je dois essayer d'imaginer quels sont les avenirs possibles pour ces objets. Et pour ça, je dois me dire, mais dans le fond, une fois que j'ai mes drivers, valeurs exposées, hauteur de durée d'inondation, type d'aménagement dans les autres villes, énergie des vagues, état des flux de sable qui se baladent là, eh bien, je vais identifier les incertitudes centrales. C'est là qu'on va arriver à des choses qui sont amusantes, en tout cas d'un point de vue strictement scénarisation. Si je prends mes variables et je regarde ceci, la valeur des biens exposés aux inondations. Alors, je ne suis pas la plus heureuse de la plus vite. La valeur des objets exposés aux inondations, c'est quelle est l'incertitude sur la valeur future de bâtiments exposés aux inondations. Donc vous êtes des habitants de Cesenatico et je vous demande, mais dans le fond, la valeur de ce qui est exposé aux inondations, c'est qu'est-ce qu'on sait là-dessus pour l'avenir? Est-ce que c'est certain? Est-ce que c'est incertain? Est-ce que là, on a une source d'incertitude centrale? Prenons la valeur de l'immobilier en région parisienne. Dans 10 ans, ça vaudra la même chose, plus ou moins que maintenant. Prenons la valeur de l'immobilier aux États-Unis en 1990 par rapport à maintenant et ce qu'on en pensait en 90. On pensait que ça vaudrait la même chose, plus ou moins. On pensait que ça vaudrait plus. Et à l'arrivée, ça valait moins. Ok. Eh bien, l'idée, c'est peut-être déjà qu'on a ici une source d'incertitude centrale sur à un horizon de 10, 20 ans, selon notre horizon de scénario, que vaudra ce qui est exposé. Ça même, ça va dépendre de choses comme une crise financière ou un désintérêt pour la cour, peu importe, on ne sait pas. Mais c'est une vraie question. Et vous verrez pourquoi c'est une vraie question. Ensuite, la hauteur d'eau et la durée des inondations. Là, on est dans un monde. Vous vous souvenez, j'avais dessiné ce petit graphique-là. Troisième étage, ici, j'avais écrit projection. Avant qu'on arrive dans scénario 2. En fait, ici, on est dans le monde de la climatologie, des projections climatiques, et donc, ici, il y a un peu moins d'incertitude, mais il y a de l'incertitude. On a une idée de ce qui pourrait se passer, mais on n'est pas sûr. Après, qu'est-ce qu'on a encore? On a l'énergie des vagues, c'est la même chose, ça vient en fait des mouvements du climat. Et pour la masse de sable, on a une équation qui nous permet de savoir à peu près comment c'est évolué avec ces variables. Ok. Et puis, on a la troisième variable que j'ai appelée Zigbee, là, qui en fait représente les aménagements humains, on va dire. Et des brises d'âme, des machins. Ça peut être un brise d'âme, ça peut être tout ce que l'humain pourrait faire dans notre vie, la côté au-dessus. Et là, ça devient vraiment intéressant. pense que, j'espère que vous allez saisir l'intérêt de cette affaire-là, parce que on a de grosses incertitudes sur l'exposition. J'ai mis juste là la valeur des propriétés, mais j'aurais pu vous dire, c'est beaucoup plus fin que ça dans une étude en temps réel. Par exemple, c'est le nombre de personnes âgées. En fait, une inondation avec beaucoup de personnes âgées, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est beaucoup plus coûteux à la fin qu'une inondation avec des personnes jeunes, pour des raisons de mobilité, de facilité. Une inondation dans un endroit où il y a beaucoup de prisons de gendarmerie et d'hôpitaux, c'est beaucoup plus compliqué qu'une inondation dans un endroit où il n'y a que des résidences secondaires. Enfin, ce sont des évidences. Il y a plein de facteurs là-dedans. J'ai juste pris la valeur pour que ce soit simple. Alors là, ma variable aménagement humain. Pourquoi j'ai rien mis là? Il y a quelque chose d'amusant ou d'intéressant ou d'interpellant, et puis j'aimerais que ça vous interpelle, ça vous amuse et que vous me disiez. Les aménagements de la côte face aux inondations pour les 20 prochaines années, est-ce qu'on sait? J'entends pas vos réponses parce que vous chuchotez. Non, c'est pas votre chuchotement qui est plus fort que les réponses des autres. Vos réponses sont soit chuchotées, soit elles ne le sont pas.
En fait, je parlais tout seul.
On est
au courant de ce qu'on va mettre en place dans les
prochaines années. Oui, ok. Ok, vous dites qu'on est au courant.
C'est nous qui les mettons en place, donc heureusement.
Oui, ça c'est vrai. Je veux dire, si on décide de les mettre en place, c'est qu'on lance au courant, je suis d'accord. Donc, c'est une question. On est sur le chemin d'une réponse. Ce que vous me dites, c'est puisqu'on les met en place et qu'on n'est pas complètement toqué, on sait qu'on est en train de les mettre en place. Mais là, ce que je vous dis, c'est plutôt est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on sait ce que les gens dans 20 ans décideront de mettre en place ? C'est une question compliquée, hein. Il n'y a pas une réponse simple, c'est oui et non. Oui, s'ils sont raisonnables, non. En fait, ce que j'aimerais que vous voyiez ici, c'est que la décision de mettre les choses en place va un peu dépendre de cela. Selon notre capacité à savoir ce qui va se passer, est-ce qu'on va conclure de ça ? On va décider de lancer les grands investissements, ça met 5, 10, 15, 20 ans, donc. Il faut lancer aujourd'hui pour des résultats dans longtemps. Et donc, on est quelque part ici. Moi, je vais mettre un grand point d'interrogation, parce que ça va dépendre des finances publiques, ça va dépendre de tas de choses. Mais fondamentalement, vous avez raison, c'est la seule chose sur quoi qu'on contrôle, qu'on contrôlera. Réellement, directement, c'est ce qu'on va mettre. Et donc, on saura qu'on contrôle et qu'on fait. Mais c'est un super grand point d'interrogation. Maintenant, si je reprends cette idée de déduction, j'ai des enjeux, j'ai des forces motrices et j'ai des incertitudes. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à raconter des possibilités sur l'avenir de mon système. Et on peut, puisqu'on ne sait pas ce que sera la valeur des choses, on peut par exemple dire haute valeur, valeur raisonnable, basse valeur. Pourquoi je dis ça ? Mais parce que, en fait, notre décision d'investir dans de la protection, par exemple, ça va être influencé par ça. Selon la valeur de ce qui est exposé, on aura plus ou moins envie de le protéger. On ne sait pas aujourd'hui si on crée des avenirs. Et que peut-être ceci, c'est pas trop incertain. Mais ça ici, ça va être lié, et ça va être lié à la compréhension qu'on a. Donc là, j'ai déjà trois possibles scénarios. Je pourrais dire croissance économique importante, valeur croissante des propriétés, enfin un peu un monde comme on l'a connu auparavant, dire stagnation, et puis on peut dire crash. Et puis je commence à raconter mes histoires. Alors, je simplifie bien sûr en mettant dedans de la science et de la connaissance, et je dis mon histoire devient très 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 déductive. Hein. Nous avons à Cesanatico un problème d'inondation lié au changement climatique. Le changement climatique va apporter une intensification des tempêtes, des vagues à plus haute énergie pour faire de l'érosion, et un niveau d'eau qui augmente. Et puis, donc mon histoire, je la raconte, et puis je fais... Il y a une première chose qui se passe, c'est le changement climatique. Et ça me fait raconter une autre histoire. Et puis, il y a un deuxième événement que je pourrais raconter dans mon histoire, qui est, il y a un crash boursier, la valeur des propriétés baisse, par exemple, ou les gens déménagent. Ou je peux raconter l'histoire, la croissance permet de maintenir la valeur immobilière. À ce moment-là, c'est un exercice narratif, eh bien, on peut dire ici que se pose la question de ce qu'on souhaite faire, la question de l'évolution, la question de savoir quelle sera la valeur de cet epsilon-là. Si vous faites ça avec des gens politiques, des administrateurs territoriaux, etc., eh bien, petit à petit, ils vont réfléchir au moment clé où une décision doit être prise. Et puis, vous avancez un peu plus loin et vous continuez. Et pour finir, vous avez une histoire de l'avenir de Chez Analytico. Et la première histoire, l'histoire que j'ai appelée 1 ici, ça peut être avec valeur très très basse. Et puis je peux raconter une deuxième histoire avec la valeur des propriétés très très haute. Et les variations vont dépendre de ce que les gens vous disent. Et puis, j'arrive avec mes points. Et chaque fois, en fait, à partir d'un système de causalité relativement simple, je vais arriver à raconter mon histoire. Et donc à explorer l'avenir, et donc à étayer, en fait, faire face aux incertitudes, qui sont les incertitudes auxquelles je peux faire face. Faire des scénarios, c'est technique, c'est long, ça met du temps aussi, c'est vraiment un résumé. Mais est-ce que vous avez des questions ? En fait, on regarde ce qu'on voit comme enjeu, puis on se dit, mais qu'est-ce qui va déterminer l'importance de cet enjeu ? Et puis on imagine des avenirs par rapport à des variations de ce qui va déterminer l'importance des enjeux. C'est très peu satisfaisant par rapport au mode de fonctionnement actuel de la science, qui est de nous dire, il y a ce qui va se passer, c'est comme ça, etc. Mais c'est la seule chose à laquelle on a accès, et ça nous permet d'explorer des cas où les incertitudes sont vraiment fortes.
Voilà, vous avez atteint la fin de la seconde partie de cette leçon en trois parties sur la scénarisation dans un contexte d'adaptation aux risques climatiques pour les communautés côtières. Prenez votre temps, cette vidéo n'était pas nécessairement la plus facile à suivre en raison du travail au tableau et des dessins que je fais, mais il me semble que c'était la meilleure façon de partager avec vous cette approche déductive de la scénarisation. Dans la vidéo suivante, je vais vous parler d'une méthode différente et d'une autre méthode différente encore. Je vous laisserai les découvrir alors. À bientôt !